débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir à tous, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. Il y a 60 ans, le traité de Rome marquait la naissance de ce qui est devenu l'Union européenne. Depuis, l'UE n'a cessé de grandir, mais aujourd'hui, une série d'événements font douter de sa capacité à poursuivre sa route. Le Brexit, l'afflux de réfugiés, la montée des populismes, l'endettement de certains pays sont autant d'épreuves que l'Europe va devoir surmonter pour préserver son unité, sa stabilité, voire son existence. Alors, l'Union européenne est-elle en danger? On va en parler avec nos deux invités de ce vendredi. Je vous les présente tout de suite. Virginie Lepetit est chef d'édition à Courrier International. Vous avez coordonné un hors-série consacré à l'Europe par le prisme d'articles, comme vous le faites régulièrement à Courrier International, d'articles de la presse étrangère. Bonsoir à vous, Virginie Lepetit.
Bonsoir.
Et puis Vivien Pertuzot est chercheur associé à l'IFRI, auteur de nombreux textes sur l'Europe. Le dernier a pour titre « La France et la politique étrangère de l'Union européenne, une ambition politique à adapter ». C'est dans un ouvrage collectif, si j'ai bien compris. Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France, un livre coordonné par Thierry de Montbrial et Thomas Gomard qui est paru en cette année d'ailleurs aux éditions Odile Jacob. Bonsoir à vous Vivien Pertuzot. Alors, cette émission, vous le savez, bien sûr, se fait en partenariat avec le Courrier International et vous appartenez, Virginie Lepetit, à la rédaction du journal dont le dernier numéro hors série a pour titre « Europe, la fin ?» Point d'interrogation. La situation est grave, si l'on en croit les articles de la presse mondiale que vous publiez cette semaine. Vous avez eu également ce sentiment en composant votre magazine ?
Oui, je pense que c'était une des motivations du Service Europe, qui est à l'origine du projet. C'était de voir monter notamment tout ce qui était lié au Brexit, la montée des populismes et ces interrogations dans tous les articles que nous lisions qui étaient « Est-ce que l'Europe a encore un avenir ? Est-ce qu'il y a encore un projet commun ? Et comment faire pour qu'il perdure, en fait ?» C'était ça. Et donc, on a voulu mettre ce débat dans nos pages et donner la parole aussi à des articles assez critiques et très argumentés, en fait, qui dénoncent les défaillances de l'Union européenne.
Et elles sont nombreuses, manifestement, quand on vous lit. Enfin, quand on lit les articles de cette presse étrangère que vous avez traduits et publiés.
Oui, alors il y a évidemment des articles de toutes les nationalités. Alors, à la fois, il y a les crises qui sont décrites et les défaillances, et notamment les institutions qui ont l'air d'être sourdes, aveugles, enfermées dans leur bulle et qui se croient infaillibles en fait. Et c'est ça qui revient, cette espèce d'arrogance de la Commission, en particulier de la Commission européenne, et qui énerve énormément les éditorialistes, les historiens et la population, en fait les populations européennes. Et c'est ça qui ressort. Après, il y a aussi beaucoup d'amour et d'espoir, malgré tout, dans ce projet-là. Donc on espère que les deux pourront dialoguer.
On va parler de tout ça ce soir. Vivien Pertuzot, 60 ans d'existence, finalement, l'Europe reste un bébé à l'échelle de l'histoire, en tout cas. Quel serait votre diagnostic à vous sur l'enfant ?
C'est vrai qu'effectivement, c'est ce que vous dites est assez intéressant, parce que c'est à la fois un enfant dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que 60 ans, c'est pas beaucoup, mais arriver à maintenir un projet aussi compliqué, où il y a autant d'acteurs impliqués dans le processus de décision, dans les toutes les ramifications de ce projet, c'est quand même déjà beaucoup. Et je pense que c'est la première chose à avoir à l'esprit, c'est vraiment que déjà 60 ans, c'est beaucoup. Après, le diagnostic, c'est que, après 60 ans, ça se porte pas si mal que ça, finalement, le projet européen. Effectivement, il y a beaucoup de défaillances, et je pense que plus que jamais, on se rend compte de toutes ces défaillances, parce que, vous l'avez précisé en introduction, il y a beaucoup de pays qui sont endettés, il y a des problèmes dans le fonctionnement des institutions, il y a également beaucoup de problèmes qui semblent ne pas être adressés par l'Union européenne. Donc, effectivement, on a l'impression que beaucoup de choses sont négatives, mais en même temps c'est un projet qui est très vivace, qui a énormément de ressources et qui finalement, après 60 ans, ne se porte pas si mal que ça. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a eu tendance à tirer à boulet rouge sur l'Union européenne plutôt que de montrer les aspects positifs. Donc on a l'impression qu'au bout de 60 ans, c'est quelque chose d'assez négatif, alors qu'en réalité, c'est quand même pas non plus si négatif que cela.
Mais peut-être parce que les défaillances se sont multipliées ces dernières années. Un partenaire historique, la Grande-Bretagne, qui se retire du jeu, c'est pas n'importe quoi, c'est important. Est-ce que l'Europe peut s'accommoder du Brexit ? Je commente avec vous, Virginie Lepetit. Est-ce que l'Europe peut s'accommoder du Brexit, selon vous ?
Alors nous, on a
publié... selon vos éditorialistes.
Voilà, on a publié un article, nous, de Brendan Sims, qui est un historien irlandais, qui affirme qu'en réalité, c'est l'Union européenne qui va en souffrir bien plus que le Royaume-Uni. Alors, c'est une vision extrêmement... on va dire britannico-centré, parce qu'il dit, oui, le Royaume-Uni est un acteur majeur, reste un acteur majeur du jeu mondial et du jeu européen, avec ou sans l'Union européenne, et finalement, nous, on va en sortir grandi, il n'y aura pas de dislocation, et c'est nous qui allons manquer à l'Union plutôt que l'inverse. Mmh. Bon, ça, c'est une vision. la réalité, ou du moins une autre réalité, c'est celle d'autres éditorialistes britanniques qui disent, on va être vraiment dans plein de problèmes, et en particulier certaines professions, les agriculteurs, les pêcheurs vont en pâtir très vite et beaucoup, et il va falloir peut-être que Theresa May change un peu son discours pour que au moins sortir avec des accords qui soient assez favorables et qui puissent permettre une survie de certaines professions qui sont dépendantes de l'Union européenne.
Alors Vivien Pertuso, l'observateur de l'institution européenne, qu'est-ce qu'il en pense? On s'achemine vers un divorce plutôt dur ou une séparation à l'amiable. Comment vous voyez cette séquence qui se profile?
Moi, je pars du principe que l'Union européenne est une machine à consensus. Alors parfois, ça a quelque chose de négatif. Parfois, ça a quelque chose de positif. En l'occurrence, avec le Royaume-Uni, ça peut avoir quelque chose de positif. Dans le sens où il est certain qu'on aura des négociations qui seront extrêmement dures, où chaque partie prenante aux négociations aura des positions fermes, ne voudra pas bouger sur ses positions, et donc essaiera de faire valoir ses positions plutôt que celles de son opposant, presque. On est presque dans un duel, finalement. Au bout du compte, on aura quelque chose qui sera mi-figue, mi-raisin pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme cela que ça se passe dans les négociations européennes. Effectivement, aujourd'hui, c'est un scénario qui peut paraître un tout petit peu fantasque quand on voit les positions de Theresa May, qui sont des positions dures vis-à-vis de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et les positions de la Commission européenne ou même des 27 autres qui disent « nous, on ne fera pas de consensus, on est très fort », etc. Mais après, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Le premier, c'est le fait que l'Union européenne n'a jamais organisé la sortie d'un État membre de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose de totalement inédit et qui sera difficile à négocier. Ça ne fait pas partie de l'ADN de l'Union européenne d'accepter que quelqu'un sorte du nid. Toute l'histoire de l'Union européenne, depuis la création, depuis le traité de Rome, justement, c'est on avance tous ensemble. Peut-être parfois à des vitesses un petit peu différentes, mais globalement, on avance toujours ensemble. Et donc, faire en sorte que quelqu'un sorte du nid, c'est quelque chose qui est totalement inédit pour l'Union européenne et qu'elle aura peut-être du mal à accepter dans une certaine mesure. Et la deuxième raison, c'est que, de manière très pragmatique, il y a des relations commerciales qui existent entre les pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni qui font que, même si politiquement, aujourd'hui, il y a des positions, des prises de position assez claires, d'un point de vue commercial, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas intérêt à avoir un Brexit dur et vice-versa. Le Royaume-Uni n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un Brexit dur non plus vis-à-vis des pays de l'Union européenne.
On a le sentiment, en plus, ou tout de même, je serais tenté de dire que rien n'est joué, que l'opinion qui a voté le Brexit pourrait finalement faire marche arrière face à ses conséquences. On peut imaginer que la crise soit provisoire, que la rupture finalement ne soit pas consommée, Virginie Le Petit ?
Alors on peut l'imaginer, oui, parce que les Britanniques commencent déjà à déchanter, et notamment donc les professions que je citais tout à l'heure qui commencent à voir les difficultés qu'elles auront concrètement sur le terrain. Du point de vue des investissements industriels aussi, d'un seul coup, on a vu que certains investisseurs, énormes investisseurs, je pense à Renault-Nissan, commençaient à être un peu frileux sur de grandes usines qu'ils avaient installées sur le Royaume-Uni. Et donc, la population qui a écouté les mensonges de UKIP et notamment tout ce qui a pu être raconté, tous ces euromythes qui viennent empoisonner la vie du citoyen ordinaire, commence à se dire ça serait peut-être c'est peut-être pas si juste que ça. Et ce qui s'est exprimé, c'est ce qui s'exprime et qu'il faut entendre, c'est une colère, du ressentiment, etc. Mais là, quand les conséquences commencent à s'avérer un peu plus concrètes, oui, il est possible que ça puisse basculer. Mais il faut aussi que le gouvernement laisse l'opportunité au peuple du Royaume-Uni de s'exprimer à nouveau. Et ça, c'est pas sûr non plus. Mmh. C'est-à-dire que là, Theresa May est en train d'engager son pays dans un Brexit dur. Elle va déclencher l'article 50 le 29 avril, me semble-t-il.
Oui. Mars, pardon.
Et donc, elle est en train quand même de le mettre sur la voie de la sortie. Donc ça, une fois que ça sera fait, ça sera quand même beaucoup plus compliqué de revenir en arrière.
On va pas trop se lancer dans la prospective d'avant parce qu'on n'a pas le temps et j'aimerais évaluer avec vous un certain nombre de problèmes qui vont se poser. Juste un mot du risque de contagion. Est-ce que d'autres pays pourraient suivre l'exemple britannique, selon vous, Vivien Pertuzot?
Je pense pas.
Non.
Je pense pas parce que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est liée à l'histoire acrimonieuse entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est quelque chose d'assez spécifique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement dans beaucoup de pays européens une forme de ressentiment, de défiance vis-à-vis de l'Union européenne. On le voit en France, on le voit aux Pays-Bas, on le voit en Finlande, au Danemark. Les pays d'Europe du Nord sont quand même des pays très marqués par l'euroscepticisme, mais pas une forme de haine comme on peut avoir au Royaume-Uni. Et donc, il peut y avoir des partis politiques, et on le voit en France, qui effectivement mettent en avant la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, ou l'arrêt de l'intégration, mais pas jusqu'à ce que ça soit un sentiment perçu par la majorité de la population. Donc on aura effectivement de plus en plus de discours critiques, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense qu'il y a une pendant très longtemps finalement une forme d'acceptation tacite de l'intégration européenne sans forcément de critique, et c'est quelque chose qui est en train de changer. Et il faut que le processus de la construction européenne s'habitue aussi à cette critique qui est assez nouvelle finalement.
L'Europe peut être améliorée.
Exactement.
C'est ce que vous dites. Les partis europhobes, vous l'avez mentionné en début de conversation, gagnent en influence. Pourquoi l'Europe, finalement, d'après vous, provoque-t-elle une telle colère populaire? Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on y revienne.
Ce qui transparaît, c'est l'opacité, en fait. Beaucoup. C'est-à-dire que les citoyens, et en tout cas ceux qui s'expriment à travers ces partis populistes, et ils sont bruyants, hein. C'est pas forcément les... Ils sont pas majoritaires, mais ils sont très bruyants. Ce qu'ils reprochent à l'Europe, c'est une opacité. Les décisions, ils ont l'impression que les décisions sont prises dans une autre sphère, qu'elles sont prises sans tenir compte de leur avis, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, puisqu'il y a une représentation de chaque pays membre auprès des instances de l'Union européenne. Donc, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est ça qui est ressenti. Et puis, il faut trouver un coupable aussi à toutes ces crises et cette espèce de super État, en tout cas présenté ainsi par les populistes, ce super État qu'est l'Union européenne, est un coupable désigné puisqu'il est plus lointain. On ne sait pas exactement qui dirige, comment c'est fait. Voilà, ça fait partie des...
Il a en tout cas la réputation, ce monde politique bruxellois, de vivre dans une bulle. Hein, vous l'avez cité dans un article d'une journaliste néerlandaise qui s'est immergée dans la vie des institutions à Bruxelles, coupée des citoyens européens. Elle dresse un constat assez critique de l'administration européenne. Je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette administration européenne? On parle d'un esprit de citadelle assiégée. Est-ce qu'on en est là?
J'ai pas lu l'article, mais là c'est presque empirique. Je l'ai vécu.
Alors dites-nous.
Mais effectivement, enfin, c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que je pense que dans tout pays, il y a une circonscription. En France, c'est une circonscription française. En Allemagne, une circonscription allemande, etc. À Bruxelles, la circonscription belge est relativement limitée. Donc c'est vrai que les institutions bruxelloises et européennes se tournent vers elles-mêmes. Et donc il peut effectivement assez rapidement apparaître une forme de déconnexion entre ce qui peut se passer dans les différents pays européens et la manière dont c'est perçu par les institutions européennes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir, notamment quand on sort de Bruxelles après y avoir passé un certain nombre d'années ou un certain nombre de temps. En tout cas, on peut se rendre compte effectivement de cette forme de déconnexion qui est compréhensible parce que tout ce qui tourne autour des institutions européennes, eh bien, regarde les institutions européennes.
Mais il y a aussi d'autres reproches qu'on fait à la bureaucratie européenne. On la trouve, par exemple, trop intrusive dans les réglementations nationales. Est-ce que ça pourrait être différent compte tenu de la nécessité d'établir finalement des règles communes?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça dépend des champs. Si on prend le champ du marché intérieur, le marché intérieur est fondé sur le fait qu'il y ait des règles communes dans tous les États membres pour que on puisse vendre un aspirateur en Pologne, en France, en Espagne, en Suède, de la même manière sans qu'il y ait des standards différents. Mmh. Donc ça, il faut effectivement une institution centralisée qui permette de réglementer un petit peu tout ça. Après, si on prend notamment plus lié à la crise de la zone euro, finalement, beaucoup des décisions qui ont été prises ces dernières années ont été prises par les États membres. Ce sont les États membres qui ont mandaté la Commission européenne pour que la Commission européenne dise, eh bien, votre budget est bon ou pas bon. Ce sont les États membres qui ont décidé que, eh bien, la Commission européenne pouvait engager certaines procédures de sanctions presque vis-à-vis des États membres. Donc après, il y a effectivement, Virginie Le Petit le disait tout à l'heure, un petit peu, il faut trouver un coupable. Mmh. Quand on n'arrive pas à trouver une solution en interne, eh bien, on sanctionne ou du moins on menace quelqu'un d'extérieur.
Mmh. Virginie Le Petit, sur cet aspect particulier.
Sur le coupable ou la bulle de Bruxelles?
La bulle de Bruxelles. Parce que l'article que vous publiez est très critique.
Il est très critique. Il est même assez angoissant. Ouais. Et au-delà de cette déconnexion s'explique aussi, dit la journaliste, par le fait que tous les gens qui travaillent à Bruxelles sont passés exactement par les mêmes écoles, les mêmes formations. Ce sont plutôt des europhiles, ce sont des gens qui croient en ces institutions et qui vivent en vase clos, mais physiquement. C'est-à-dire qu'ils ont accès, ils ne sortent pas d'un petit périmètre. Et donc tout ça, effectivement, alimente une espèce d'entre-soi. Et on partage les mêmes idées, on pense aux mêmes solutions. Et ça, elle le reproche beaucoup. Ça, mêlé à une certaine arrogance aussi. Mmh. Il y a des citations qui font froid dans le dos.
Mais alors, comment à Bruxelles ou à Strasbourg, d'ailleurs, vit-on cette période un petit peu tendue, on va dire? Est-ce que ça peut sembler être l'opportunité d'engager des réformes, finalement, au fonctionnement de l'administration locale pour être mieux perçu, davantage accepté? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, apparemment, il y a eu quand même quelque chose de l'ordre de la stupéfaction au moment du Brexit. Enfin, c'est ce que décrit cette journaliste, hein, qui était les technocrates de Bruxelles n'ont rien vu venir. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe. Et donc ça a été très très violent. Et par ailleurs, donc nous, dans ce qu'on a publié, il y a un politologue néerlandais, Luc van Middelaar, qui est un spécialiste de l'Europe, qui lui propose de changer un peu cette vision et cette politique du consensus pour passer à une politique de l'événement, c'est comme ça qu'il la nomme, et qui serait beaucoup plus active. On arrête les velléités, on arrête à un moment les réglementations et les négociations, et face à des crises qui sont aussi graves que celles des migrants, par exemple, on passe à autre chose et à une gouvernance beaucoup plus active, beaucoup plus forte en réalité. Donc, en quelque sorte, un plus grand pouvoir.
Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, une petite minute. Parce qu'il y a ceux qui pensent que ce n'est pas si mal, et vous en publiez, on peut évoquer cet article d'El País, par exemple, qui a pour titre « Et pourtant, elle fonctionne », et qui rappelle tout ce que l'Europe apporte aux Européens. Vivien Pertuso, qu'est-ce que l'Europe apporte aux Européens, finalement? Est-ce qu'on peut faire un petit résumé en moins d'une minute?
Moins d'une minute, ça risque d'être compliqué, mais... Finalement, en 2014, il y avait un clip qui, pour les élections européennes, qui était sorti et qui expliquait tout ce que l'Europe apporte aux citoyens et qui disait en gros, l'Europe n'est pas sexy, mais elle est nécessaire. Mmh. Dans le sens où, effectivement, l'Europe apporte plein de petites choses dont on se rend pas forcément compte et qui sont jamais expliquées, mais dont on a absolument besoin pour assurer une forme de bonne qualité, de, je sais pas, par exemple, de l'eau qu'on boit.
Un exemple ou deux.
Par exemple, l'eau qu'on boit.
Ouais.
On va prendre l'eau qu'on boit ou l'air qu'on respire.
Ouais.
Eh bien, il existe des réglementations qui font en sorte que partout où on va en Europe, on est obligé de pouvoir respirer une air d'une certaine qualité et une eau d'une certaine qualité.
Bon, allez, on va rester sur ces motifs de satisfaction puisque l'émission tire à sa fin. Merci à tous les deux, Virginie Le Petit, chef d'édition à Courrier International, et Vivien Pertuso, chercheur associé à l'IFRI. Merci également à Eleanor Krenik qui a préparé cette émission et à Claude Battista qui la réalise en ce moment même. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous la retrouvez bien sûr sur notre site internet rfi.fr et sur Radio International. Dans quelques secondes, un nouveau journal. Bonsoir à tous.